Matière à penser.
Une émission de philosophie proposée par l'Institut Philanthropo.
Avec Fabrice Drapé.
Et Galdric Hadjadj.
Aujourd'hui, 8e épisode de notre série sur la technique, avec un texte de Hannah Arendt et la question « La machine est-elle tout autre chose que l'outil ?» Dans le prolongement de notre méditation sur la différence entre culture et technologie, il convient de réfléchir à la différence entre l'outil et la machine, et même entre la machine et l'appareil électronique. Souvent, nous croyons que ces appareils sont de simples instruments. Il suffirait de les avoir bien en main et d'en faire bon usage. Et s'ils n'étaient pas des instruments ? Si le problème de notre époque était celui de la disparition des vrais instruments et de la multiplication des appareillages ? Car un instrument, nous le maîtrisons. Il reste docile à notre esprit et il permet de le cultiver. Tandis qu'une machine nous impose sa propre cadence. Un appareil nous insère à l'intérieur d'un dispositif mondial qui nous domine plus que nous le dominons. Pour mieux saisir cette distinction essentielle, commençons par écouter un texte de Hannah Arendt, encore une fois, tiré de son maître ouvrage « La condition de l'homme moderne ».
La différence décisive entre les outils et les machines trouve peut-être sa meilleure illustration dans la discussion apparemment sans fin sur les points de savoir si l'homme doit s'adapter à la machine ou la machine s'adapter à la nature de l'homme. Nous avons donné au premier chapitre la principale raison expliquant pourquoi pareille discussion ne peut être que stérile. Si la condition humaine consiste en ce que l'homme est un être conditionné pour qui toute chose, donnée ou fabriquée, devient immédiatement condition de son existence ultérieure, l'homme s'est adapté à un milieu de machines dès le moment où il les a inventées. Elles sont certainement devenues une condition de notre existence, aussi inaliénable que les outils aux époques précédentes. L'intérêt de la discussion, à notre point de vue, tient donc plutôt au fait que cette question d'adaptation puisse même se poser. On ne s'était jamais demandé si l'homme était adapté ou avait besoin de s'adapter aux outils dont il se servait, autant vouloir l'adapter à ses mains. Le cas des machines est tout différent. Tandis que les outils d'artisanat, à toutes les phases du processus de l'œuvre, restent les serviteurs de la main, les machines exigent que le travailleur les serve et qu'il adapte le rythme naturel de son corps à leurs mouvements mécaniques. Cela ne veut pas dire que les hommes, en tant que tels, s'adaptent ou s'asservissent à leurs machines. Mais cela signifie bien que pendant toute la durée du travail à la machine, le processus mécanique remplace le rythme du corps humain. L'outil le plus raffiné reste au service de la main, qu'il ne peut ni guider ni remplacer. La machine la plus primitive guide le travail corporel et éventuellement le remplace tout à fait.
Fabrice Hadjadj, tandis que les outils d'artisanat s'adaptent, restent serviteurs de la main, les machines exigent que le travailleur les serve et qu'ils s'adaptent à leur rythme. Quel est le contexte de ce texte ?
C'est un texte qui se trouve dans l'œuvre majeure de Hannah Arendt, La condition de l'homme moderne, en vérité, The Human Condition, la condition humaine. Une réflexion qui n'est pas simplement une réflexion d'ailleurs sur l'homo faber, l'homme qui fabrique, mais aussi sur l'homme politique, et qui cherche justement à essayer de penser différents aspects, non seulement pourquoi la politique a été d'une certaine façon absorbée par les dimensions économiques, les dimensions matérielles, et qu'elle a perdu son caractère d'œuvre libre humaine, enfin, domaine de l'action à proprement parler. Et puis, de l'autre côté, effectivement, une réflexion sur la condition de l'homme en général, à l'époque aussi des machines. En cela, Hannah Arendt se situe pleinement dans la continuité des réflexions de Marx. D'ailleurs, on peut dire même que ce texte n'est pas décisivement arendtien, c'est un texte qui correspond aussi à la pensée de Marx sur la machine. C'est un texte d'ailleurs qui a une force majeure et qui, comme chez Marx d'ailleurs, ne prétend pas revenir en arrière. Et à l'époque de Marx, il y aura les mouvements ludites, hein, des casseurs de machines qui diront ben voilà, l'apparition des métiers à tisser mécaniques détruit l'artisanat, le travail humain, il faut absolument détruire les machines, revenir au savoir-faire ancien. Marx sera farouchement opposé à cette tendance. Marx est un penseur qui croit au progrès et qui pense même qu'il va falloir passer par le libre-échange, l'hypercapitalisme pour qu'il y ait une vraie révolution, que les choses se retournent. Mais il n'est pas l'ennemi de la machine, alors même qu'il dénonce, comme Hannah Arendt, vous voyez, le problème qu'elle pose. Et là aussi, Hannah Arendt, qu'est-ce qu'elle est en train de dire ? Ce qu'on a vu d'ailleurs dans de précédentes émissions, l'homme est un être historique. Et on n'a pas à se poser la question de savoir s'il est adapté aux machines, parce qu'à partir du moment où on pourrait dire bah, les machines n'ont pas toujours été nécessaires, le smartphone n'a pas toujours été nécessaire à l'humanité. Oui, mais le propre de l'humanité, c'est d'être pris dans une société qui change ses conditions de vie, et où, finalement, bah, l'homme s'adapte à sa société. Et si c'est une société où il y a des smartphones pour que les hommes puissent communiquer entre eux, même si ça pose d'énormes problèmes de communication et surtout de communion entre les personnes, eh bien, il faudra en faire un certain usage et trouver un bon usage. Donc, vous voyez, il n'y a pas ici de dénonciation de la machine, de dire il faudrait revenir à une société sans machine. Cependant, il y a une véritable critique, et c'est cette critique qui nous intéresse aujourd'hui.
Fabrice Haddad, juste pour revenir à ce que vous disiez juste avant d'en venir à proprement parler à la critique, elle dit en effet une phrase extrêmement intéressante, que la condition humaine est conditionnée par tout ce qui a été fabriqué ou donné, et que cette chose devient condition de son existence ultérieure. Comme si il était, excusez-moi ces néologismes, impossible de désinnover ou impossible de désinventer.
Oui, alors, c'est... Ici, Hannah Arendt ne fait pas l'apologie de l'innovation pour l'innovation. Elle ne fait pas non plus l'apologie de ce que vous appelez la désinnovation ou du retour à une condition antérieure. Pour elle, il y a toujours un discernement à opérer. Mais ce qu'elle ne veut pas, et on en a parlé à plusieurs reprises, c'est d'oublier ce qu'est précisément la condition humaine, qui n'est pas la condition bestiale. C'est bien d'être une bête, on en parle là aussi dans cette émission. Une bête ne se demande pas ce qu'elle doit faire dans sa journée, vous voyez. Elle ne se demande pas comment elle doit s'habiller. La tigresse ne se réveille pas le matin en se disant « je n'ai rien à me mettre ». Il n'y a pas des innovations parmi les tigres qui exigent un discernement moral, qui risquent de troubler la famille tigre, parce qu'il n'y a pas la petite tigronne qui aurait tout d'un coup le désir de l'iPhone, par exemple, qui risque de détruire la table familiale, la possibilité d'un dialogue, puisque chacun sera devant son écran. Bon. Donc tout ça n'existe pas chez les bêtes, et on pourrait rêver finalement d'une société qui fût sur des rails ou qui fût sur des lignes d'un instinct permanent, quoi. Et c'est ça ce que récuse Hannah Arendt. L'histoire humaine, elle est faite d'innovation, elle est faite aussi de réaction. Elle est, je dirais, ni absolument progressiste, ni absolument réactionnaire, vous voyez. Elle est simplement en train de dire que l'homme est un sujet libre, un homme qui est capable de changer ses conditions de vie, un sujet historique. Et donc, à l'intérieur de cette histoire, eh bien, on peut aussi faire des pas en arrière. Mais on ne pourra jamais oublier qu'on ne revient jamais à la situation absolument antérieure, puisque si on y revient, c'est avec un pas en arrière, et non pas, vous voyez, à partir du pas en avant des sociétés précédentes. Donc il y a toujours cette affirmation-là, et ça suppose un sens profond de la condition humaine, je dirais de son drame, et du fait que l'homme est toujours responsable et a toujours à réfléchir à l'époque dans laquelle il vit, sans avoir, on pourrait dire, des solutions prédéterminées.
Fabrice Haddad, Arendt nous dit ici qu'il y a une différence fondamentale entre l'outil et la machine, c'est que l'outil s'était toujours adapté à l'homme et que l'homme, non pas qu'il s'adapte à la machine ou qu'il est asservi à elle, mais qu'il se machinise, c'est-à-dire qu'il reçoit lui-même le rythme de la machine, qu'il vit complètement au rythme de la machine.
Alors, la grande différence, c'est qu'on peut, la question de l'adaptation de l'outil à l'homme ne se pose pas. Ça, c'est une grande affirmation. Parce que, on pourrait dire, l'outil est immédiatement proportionné à la main et l'outil est, on pourrait dire, animé par l'énergie métabolique, l'énergie du corps de l'artisan. Donc, ce n'est pas une énergie extérieure. Et en plus, l'outil produit les choses, forme les choses à partir du savoir-faire de l'ouvrier. Quand on a une machine, et c'est ça, à mon avis, le propre de la machine, et Marx insiste beaucoup là-dessus, c'est que la machine n'est pas mue par l'énergie du corps. Elle n'est pas mue par une énergie métabolique, elle est mue par des forces naturelles, que ce soit des forces hydrauliques, que ce soit l'électricité, que ce soit le nucléaire, que ce soit... et donc, elle a son propre mouvement. Elle a son propre mouvement. Alors, la première chose, c'est que si elle a son propre mouvement, c'est elle qui va m'imposer sa cadence. Et ça, c'est une chose tout à fait étonnante, parce que l'ouvrier, tant qu'il est le producteur, il y a le moment où il est fatigué. Bon, bah, il va s'arrêter, il va travailler plus ou moins vite, ou plus ou moins lentement, en fonction de son état, de sa propre énergie. Mais avec une machine, vous pouvez avoir une chaîne de montage, et voilà, et il y a des cadences imposées par la division scientifique du travail, selon Taylor, vous voyez, et là, vous devez vous adapter à ces cadences. Et parfois, les cadences peuvent être rapides. On voit ça dans les temps modernes de Charlie Chaplin, vous voyez, où tout d'un coup... Ouais, et ça, c'est extraordinaire. Donc, on est dans une sorte de renversement où, effectivement, c'est la machine qui donne le tempo. Et puis, l'autre chose, c'est que la machine peut en plus être une machine intelligente, ingénieuse, qui elle-même va produire la forme. Donc, on peut être dépossédé de savoir-faire. On n'a plus besoin de savoir-faire, c'est la machine qui fait, et nous, on est juste là pour vérifier qu'elle a bien fait, ou pour des toutes petites opérations de maintenance dans un entre-deux, ou alors des gestes qui sont des gestes sans qualification spéciale. Et là, c'est un retournement, parce que puisqu'il n'y a plus besoin de savoir-faire, bon, les hommes vont perdre tout savoir technique, on en a déjà parlé, mais surtout, on va pouvoir enrôler dans le monde ouvrier aussi bien les femmes que les enfants. Parce que l'homme qui avait besoin, vous voyez, il y avait certaines choses qui étaient vraiment vouées aux hommes, parce qu'ils avaient une force physique supérieure à la majorité des femmes, et puis parce qu'ils avaient une expérience supérieure aux enfants. Mais à partir du moment où vous avez des machines, vous pouvez enrôler dans les usines des femmes et des enfants. Et c'était la remarque géniale de Marx, où il dit, voilà qu'on invente la machine, on vous dit, ben voilà, la machine va vous libérer du temps, va enlever de la pénibilité, du travail, etc. Oui, mais en fait, non, la machine va mobiliser tous les hommes de manière indistincte. Hein, la machine invente l'individu comme pure force de travail. Il n'y a plus des hommes, des femmes, des enfants. Il n'y a plus des gens, des personnes âgées, des personnes... Parce que tout le monde, vous voyez, est à égalité devant la machine. On pourrait presque dire que l'usine a été un lieu d'égalitarisme absolu. D'égalitarisme dans l'exploitation du travail, mais d'égalitarisme. Et c'est ça qui est très intéressant. Donc là, non seulement elle donne son tempo, mais... En plus, elle va mobiliser tout le monde. Et la troisième chose, c'est qu'avec ce savoir-faire qu'elle possède elle-même, donc elle dépossède l'homme de son savoir-faire, eh bien, l'homme n'est plus un concepteur et un exécutant à la fois, comme était l'artisan. Il n'est plus qu'un pur exécutant. C'est la machine qui est programmée. Et lui doit entrer dans ce programme. Donc, La machine guide le travail corporel, dit-elle, et même remplace éventuellement ce travail corporel, mais même elle va guider et remplacer la possibilité d'initiative dans son travail de l'ouvrier. Donc le travail perd, avec des machines très sophistiquées, d'une certaine façon, on est moins libre qu'un esclave. Parce que l'esclave avait un savoir-faire et pouvait décider de faire la chose d'une manière ou d'une autre. Mais si nous travaillons avec une machine qui est absolument programmée, eh bien nous n'avons même pas la liberté d'initiative que pouvait avoir l'esclave antique.
Vous écoutez Matière à penser, une émission de philosophie proposée par l'Institut Philanthropos, avec notre question aujourd'hui, la machine est-elle tout autre chose que l'outil ? Fabrice Hadjadj, nous avons fait la distinction entre outils et machines. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi rajouter une troisième catégorie qui introduit aussi une certaine aliénation de l'homme, l'appareil ?
Alors oui, je pense que nous ne sommes plus à l'âge des machines. Et ça, c'est un point assez fondamental. Quand on regarde les temps modernes de Charlie Chaplin, on voit bien que la machine, c'était l'usine, c'était un truc énorme, une sorte de monstre de fer, la chaîne de montage, le train, bien sûr, la locomotive, hein, qui est l'image même de la machine. Alfred de Vigny parle de ce grand taureau de fer hein, qui fait qu'on s'absente du monde parce qu'on passe trop vite d'un point à l'autre, parce qu'on n'a pas le temps d'éprouver la résistance des choses, du paysage, etc. Donc, ça, ce sont des grosses machines qui apparaissent comme des gros monstres métalliques. Et donc, immédiatement, on voit que ça peut nous dévorer. Vous voyez, la gueule d'un laminoir, par exemple, hein, ben, on voit bien que voilà, c'est une énorme presse qui peut vous broyer un homme. L'appareil électronique, c'est pas pareil, parce qu'on ne voit pas bien son fonctionnement, c'est pas un truc énorme. Hein, on est au niveau électronique, donc on ne voit plus de rouages, on ne voit plus de... Et puis surtout, c'est un truc qu'on a dans la poche. C'est la miniaturisation. C'est dans votre main. C'est ergonomique. Et alors, forcément, on est beaucoup plus désarmé parce que c'est à la fois quelque chose de plus monstrueux qu'une machine. Parce qu'un smartphone, c'est connecté à une machinerie mondiale, énorme. Mais qu'on ne voit pas, et qui nous fait croire que c'est nous qui l'avons dans la poche, voyez. Donc on est face à une sorte de monstruosité, de gigantisme qui est invisible, et nous entrons dans un lieu où on va pas dire oulala c'est dangereux, ça fait non, on est dans le lieu du cool, vous voyez, c'est l'appareil. C'est la machine cool, sympa. La machine qui apparaît comme conviviale. La notion de convivialité est une notion usurpée d'ailleurs à Ivan Illich, mais vraiment utilisée par tous ceux qui ont fait Mac, hein, enfin Apple et tout ça. Hein, ils parlent beaucoup de leurs ordinateurs conviviaux, vous voyez. Bon. Et là, on se laisse prendre. Parce que sur une chaîne de montage, on voit bien qu'on est pris par un rythme qui n'est pas le nôtre. Et on rentre avec une fatigue où on sent qu'on a été, comment dire, écrasé par une force étrangère. Mais quand on est avec ces appareils, on a l'impression que c'est nous qui manipulons les choses. C'est nous qui surfons, c'est nous qui swipons, c'est nous qui passons d'un truc, c'est sympa, vous savez, c'est... Et en même temps, nous sommes pris dans des addictions, et en même temps, alors que tout ça apparaît comme une offre gratuite, nous sommes complètement exploités par un système. Alors vous voyez, c'est ça la grande différence entre la machine et l'appareil. La machine était capable de susciter des mouvements de révolte ouvrière. Vous voyez, il y a eu des moments où on a dit, mais c'est plus possible, nos conditions de vie. Mais l'appareil, comme il vient avec son gigantisme invisible, avec son côté cool, avec son côté ludique, avec son côté « c'est toi qui me manipule, c'est pas moi », eh bien là, c'est très très difficile d'avoir des mouvements anti-appareil comme il y a eu des mouvements anti-machine, des grandes manifestations contre l'addiction aux appareils, comme il y a des manifestations contre les atroces conditions de travail qu'il y avait dans les usines. Donc on est dans un lieu d'oppression, en fait, invisible, d'oppression cool. Et on peut même se demander si on devient pas même... parce que là, on n'a plus l'impression qu'il y a genre le méchant capitaliste dehors et le gentil prolétaire de côté. Non, enfin, d'ailleurs, chez Marx, ça ne se partageait pas comme ça. Tout le monde était aliéné, hein, aussi bien le capitaliste que le prolétaire. Mais là, on est dans une aliénation, dans une aliénation où c'est d'un dispositif où à la fois, ce n'est pas nous, mais c'est nous en même temps. Et c'est une auto-aliénation. Et c'est là où il y a quelque chose où il faut bien penser que ce n'est plus exactement de la machine.
Fabrice Adage, tout comme on ne peut pas utiliser une machine comme un outil, est-ce qu'on peut avoir un usage raisonné, un usage qui ne soit pas entré dans le dispositif de nos appareils ?
C'est extrêmement difficile, parce que, là encore, ces appareils nous imposent leur tempo. Alors, c'est incroyable, c'est-à-dire que et même renverse la donne. Pour bien voir un écran, il faut qu'il n'y ait pas de soleil. On essaye de trouver maintenant des vitres sans reflet aucun, vous voyez, pour qu'on puisse regarder nos smartphones même en plein soleil. C'est un des grands enjeux de l'avenir. Mais en fait, on aime mieux la pénombre. Les écrans brillent dans la nuit. Donc, il est naturel qu'avec les appareils, la nuit devienne le jour et le jour devienne la nuit. C'est pour ça que ceux qui ont des fortes addictions aux appareils, eh bien, se couchent très très tard. Alors, ça, ils peuvent pas et peuvent surfer, voir une vidéo puis une autre sans fin jusqu'à l'aube. Il y a vraiment une, on a un tempo qui nous pousse à la nuit blanche d'une certaine façon. Ouais, bien, c'est le jour des appareils, c'est notre nuit blanche. Donc ça c'est un point fondamental. Ensuite, ces appareils sont des appareils qui sont faits Windows, hein, pour qu'il y ait plusieurs fenêtres actives, pour qu'on soit dans la dispersion de l'attention et pour des notifications extrêmement rapides. Donc, on ne cesse de sauter d'une chose à l'autre. Et à ce moment-là, on voit bien que notre volonté tend à se morceler et à s'effondrer. On est complètement dispersé. Et voyez le problème, là, ici, on est face à un problème majeur. C'est, vous dites, comment faire pour bien en user ? Mais il faut de la volonté pour entrer. Et ces appareils nous privent de notre volonté. C'est quand même une chose étonnante, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais... aujourd'hui, donc, vous avez des hommes d'affaires qui, comme des adolescents, on accuse les adolescents d'être des geeks, mais il y a des hommes d'affaires qui sont aussi dans l'addiction à leur téléphone portable. Il est très difficile d'avoir un téléphone portable à côté de soi et de ne pas regarder sans cesse si on n'a pas reçu un nouveau message. Si on, pas, voilà, on est dans cette hyper-excitabilité. On attend que les choses nous reviennent sans cesse. Donc, ça veut dire qu'il y a un moment où on se dit « Ah non, c'est trop, il faut que j'arrête. Allez !» Je le mets de côté. Mais comme notre volonté a perdu sa consistance à cause de l'appareil, très vite, on va revenir à l'appareil. Et notre résolution est aussi brève que le temps d'une vidéo sur TikTok. Donc, 30 secondes de résolution. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On dit, non, mais c'est fini. Non, c'est absolument fini, l'iPhone. Là, maintenant, je le jette. Et on le jette, mais 30 secondes après, on va le chercher. Eh bien, des entreprises proposent maintenant des coffres où l'on met son iPhone, on le ferme et on ne peut plus l'ouvrir pendant 3 heures. On programme, vous voyez, un nombre d'heures pour pouvoir travailler, pour pouvoir se détacher. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on reconnaît que nous n'avons plus de volonté et qu'il faut une machine, un appareil, pour nous arracher à l'addiction des appareils, vous voyez ? Donc là, c'est le monde dans lequel nous sommes. Un monde où il ne faut pas oublier que ces appareils produisent une addiction. Et c'est étonnant, vous voyez, donc le grand mouvement ouvrier de résistance à l'exploitation des machines critiquait l'exploitation et les conditions de travail atroces. Est-ce que nous sommes capables de produire un grand mouvement qui va aller à l'encontre de ces addictions? Est-ce qu'on va y être capable? Vous voyez, est-ce que ceux qui écoutent cette émission vont enfin se déconnecter et se parler entre eux? Peut-être que c'est ça qu'on pourrait attendre.
Merci Fabrice. C'était Matière à penser, une émission de philosophie proposée par l'Institut Philanthropos avec Anna Arendt, Fabrice Drapé, Galdric Adjadj et Michael Durmeyer à la technique. Retrouvez-nous tous les samedis à 11h30 et bien sûr en podcast sur les sites de Radio Notre-Dame et de Philanthropos. À très bientôt et n'oubliez pas que vous êtes intelligent.